que j'ai passé toute ma jeunesse à Saint-Imier jusqu'à 15 ans où mon père était pasteur et donc je voyais les ouvriers, les ouvrières des Longines qui remontaient du fond de la vallée chaque jour avec à 6h10 avec le car et je me disais voilà, ça fait 100 ans que ça dure, je voudrais bien savoir comment ça s'est passé au début. Donc j'ai été un peu voir les archives et d'autre part j'ai fait un grand voyage qui m'a amené de la Patagonie, enfin du détroit de Magellan tout au sud des Amériques jusqu'en haut en Alaska. J'ai suivi un peu les traces de cette migration.
Alors, en parlant justement de cette partie d'enfance que vous avez eue à Saint-Imier, on y tire les racines anarchistes. Est-ce qu'enfant vous l'avez perçu, ressenti à un moment ou à un autre, cet esprit anarchique?
Oui, je crois qu'à Saint-Imier, c'est quelque chose qui est resté très vivant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a dans la mémoire. On sait qu'il y a eu un grand congrès anarchiste dans les années 1870, après la Commune de Paris. J'avais lu les trois discours qui ont été faits par Bakounine, les ouvriers du Vallon de Saint-Imier. C'est donc des choses qui existent encore, qui ont été publiées dernièrement. Et moi, je trouve que ça fait partie de notre histoire, au même titre que, je ne sais pas quoi, Morgarten ou Guillaume Tell. Sauf qu'on la raconte un peu moins, cette histoire, donc j'avais envie de la dire.
Alors, dans cet ouvrage, vous avez fait le choix de nous conter l'histoire de 10 femmes, plutôt que celle d'une famille, ou d'un groupe mixte, ou même simplement d'un groupe d'hommes. Pour quelle raison?
Il se trouve que j'ai découvert que souvent, les femmes qui n'avaient plus de soutien de famille, c'est-à-dire quand le mari était mort et qu'il restait des enfants, elles étaient à la charge des communes. Les communes, y compris dans le Jura, mais aussi au Tessin et ailleurs, elles se débarrassaient des cas sociaux, ce qu'on appellerait des gens qui avaient besoin d'aide, en leur disant « bon, on va plus t'aider, mais on va te payer le voyage pour t'en aller, et puis c'est définitif, faut pas que tu reviennes, parce que sans cas, t'auras plus d'aide ». Et donc, il y a eu beaucoup de femmes qui ont dû partir de cette manière-là à l'autre bout du monde, en Australie, au Canada et aussi en Amérique du Sud. Et l'histoire du « ni Dieu, ni maître, ni mari », c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un texte que j'ai trouvé qui était un slogan des anarchistes dans les années 1890.
Et vous, en tant qu'homme, quand vous décidez de vous mettre dans la peau d'une femme, vous procédez comment ?
Ah, c'est délicat. C'est délicat parce que c'est la liberté du romancier, c'est vrai. Mais en même temps, on doit faire attention d'essayer de se mettre dans la peau à fond. Ce qui des fois, c'est vrai, c'est pas évident. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'autre moyen de raconter cette histoire que de la raconter depuis l'intérieur. Parce que finalement, on sait très peu, il y a très peu de documentation sur ceux qui n'ont pas réussi. On sait toujours l'histoire de ceux qui ont réussi, qui ont inventé je ne sais pas quoi, qui ont construit un pont, qui ont construit un palais présidentiel en Amérique du Sud. Mais on ne connaît pas l'histoire de ces femmes et donc il y a beaucoup de choses à inventer, même si j'essaye d'être aussi près que possible de la réalité.
Il s'agit d'un roman basé sur des faits réels. Où s'arrête la fiction et où commence la réalité?
Alors c'est très simple à voir pour ceux que ça intéresse. Tout ce qui est entre guillemets, c'est des vraies citations, c'est des lettres d'émigrés, c'est des lettres c'est des textes de journaux, etc. Et puis le reste, c'est mon imagination. J'ai changé quelques noms, mais j'ai gardé les noms de gens qui ont été condamnés à l'époque. Par exemple, à Saint-Imier, quand il y a eu les émeutes, il y a eu un moment où on avait envoyé 1500 soldats pour faire tenir tranquille les gens de Saint-Imier qui tenaient beaucoup à garder leur médecin. C'était un médecin juif qui avait construit l'hôpital et qui avait mis sur pied une école secondaire. Et il a été chassé en 1851 par le gouvernement bernois en disant qu'il n'était pas, qu'il était juif et allemand et que donc il fallait qu'il s'en aille. Et toute la population était derrière lui. Et là, j'ai raconté vraiment l'histoire comme elle s'est passée avec tous les documents, avec les noms de ceux qui ont été en prison et qui sont sortis comme des héros ensuite.
Et parmi les 10 petites anarchistes, est-ce qu'une de ces femmes a réellement existé?
Ah oui. Ah oui, il y en a 8. J'ai trouvé 8 femmes qui sont parties ensemble. Avec des enfants et sans mari.
Un objet accompagne ces 10 femmes. Elles ont chacune un oignon Vinta de la marque Longines. Cette montre, elle représente quoi?
C'était la première montre. C'est un oignon, quoi. C'est ce qu'on mettait dans la poche. C'est pas une montre bracelet. Et c'était en fait ce qu'elles avaient contribué à fabriquer, chacune fabriquant une pièce. Et donc, quand elles partent, plutôt que d'emmener de l'argent, plutôt que de trouver, ben, elles se font aider et on leur fait ce cadeau-là. Et chacune a un oignon. Et ça va être aussi un peu le fil conducteur de l'histoire, puisque ces oignons disparaissent et réapparaissent au fur et à mesure des pages.
En lisant votre roman, on sent à travers la plume de Valentine qu'il y a une nostalgie du vallon, hein, perdu sur une île au milieu du Pacifique. Elles appellent même leur paillote l'envers et le droit. En fin de compte, est-ce qu'elles ont dû partir pour réaliser qu'elles tenaient à leur terre ?
Je pense qu'il y a une nostalgie, mais c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de malheureux. C'est simplement dire on est né là par hasard. Et donc, c'est des paysages qui nous restent. Et quand on n'a plus vu la neige pendant plusieurs saisons, ben, on a un peu l'ennui de la neige. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une identité jurassienne qui leur serait collée à la peau. Non, elles ont l'idée de ne pas renoncer. Et elles se racontent entre elles d'où elles viennent, quoi. Et après, elles essayent de faire une nouvelle vie ailleurs et ce n'est pas facile.